Claire Colin-Colin, Sylvain Roche. On est aujourd'hui dans l'atelier d'Alain Sicard, qui fait une quarantaine de mètres carrés, et dans lequel on trouve un plateau plein de livres, ouverts, un dispositif de son, un bureau, non, un meuble à dessin, derrière lequel se tiennent une quantité de cartes postales présentées sur des petites étagères, un stockage très rangé, un autre plateau de travail et un meuble qui contient les outils. C'est ça, Alain ?
Bah oui, oui, oui. Bon, on va décrire plein de choses, mais c'est déjà une première description.
Et tu nous montres les choses presque les plus récentes.
Oui, 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 c'est... Les accrochages en général, c'est les pièces qui viennent d'être faites il y a 15 jours, ou bien des choses plus anciennes, mais qui sont de toute façon de l'année.
Tu pourrais nous décrire une des peintures ?
Et ben, donc le format, c'est... Là, en ce moment, je travaille sur des formats qui ne sont pas très grands, c'est des 70 par 50, 70 cm par 50. Des peintures qui sont sur un support que je travaille depuis maintenant une petite dizaine d'années, qui est un dérivé du PVC qui s'appelle du Klöckner, un support qui est assez mince, qui fait quelques centièmes de millimètre d'épaisseur, donc qui ondule comme j'ai envie que ça bouge, et je travaille sur ce support avec de la peinture acrylique, ça c'est relativement récent, et un liant qui tient sur ce support.
Ah, j'étais persuadée que c'était à l'huile.
Ça a été à l'huile pendant des années, et puis à un moment donné, pour mes poumons, j'ai décidé d'arrêter de travailler à l'huile. Alors je le fais de temps en temps à la campagne, j'ai un atelier de campagne l'été, il fait trop chaud pour travailler à l'acrylique, ça sèche trop vite. Donc je reprends comme ça de temps en temps mes premiers amours d'huile, mais sinon... Oui, je travaille à l'acrylique, ça va faire un an maintenant, donc j'ai fait cette conversion, elle n'a pas été simple dans un premier temps. Il faut s'adapter, convertir effectivement les réflexes, les gestes, les habitudes qui étaient celles de l'huile. Mais je me sens beaucoup mieux à la fin des séances. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est lié à l'huile, c'est lié aussi au white spirit que je vaporisais avant. Donc maintenant je vaporise de l'eau, donc c'est quand même beaucoup mieux. C'est lié au liant qui était un liant glycérophtalique, donc qui n'était pas génial non plus pour la santé. Donc à un moment donné, j'ai décidé de passer à autre chose. Et ça se sentait surtout sur les grands formats. Je sortais des fois complètement groggy d'une séance de travail. Et au bout d'un moment, parfois des maux de tête. Enfin, c'est pas très intéressant tout ça, mais voilà, pour dire que l'acrylique maintenant me va très bien. Oui. Je suis quand même plus serein pour la séance.
Tu parles de séance.
C'est une séance de travail, oui. C'est une séance de travail. Parce qu'il y a différents moments à l'atelier. Il y a des moments où je ne fais rien. Il y a des moments où je décide de... Il y a le suivi des pièces. Il y a un travail qui se fait après sur les pièces. Un travail de préparation en amont aussi qui peut se faire. Donc, un travail de... recherche au niveau de l'accrochage des pièces, du rapport entre elles, de prise de vue des pièces. Enfin, il y a une multitude de choses à faire dans l'atelier. Et puis au milieu de cette multitude de choses, eh bien, il y a les séances à proprement parler. Donc c'est une après-midi, en gros, un peu plus par semaine, je consacre à ça. Où là, je ne fais que ça pendant à peu près 5-6 heures. C'est à peu près la durée d'une séance de travail. Et la durée de la séance est simplement définie par un début et un épuisement à la fin de l'artiste.
Donc une peinture peut se faire en plusieurs séances.
Alors, non, une peinture se fait dans le frais en ingé. Voilà, si c'est... si le lendemain je reviens et que je la juge ratée, et ben c'est fini, elle passe à la poubelle. Je ne reviens jamais dessus. Alors le travail que je fais en amont la veille ou les jours précédents, c'est la préparation du support. Donc j'ai défini un format, donc j'ai des feuilles qui ont des formats plus grands, donc je recoupe. C'est un peu délicat de couper ce type de matériaux, donc ça demande quelques précautions pour ne pas s'en tailler les doigts. Ensuite, une fois que le format est coupé, j'attache une importance un peu maniaque, un peu ridicule, mais c'est comme ça, à ce que le dos soit parfaitement vierge de toute trace de peinture. Donc le dos des peintures, tu le vois sur la table là, est complètement blanc. Donc ça demande un travail de cage, de préparation, puis il faut que je les accroche sur des supports pour de temps en temps les basculer de la position horizontale de la réalisation à la position verticale pour voir ce que je suis en train de faire un peu mieux. Donc il y a tout un dispositif que je fais souvent la veille ou l'avant-veille de mise en préparation de l'atelier à la séance de travail. Et puis après, il y a la séance de travail à proprement parler. Donc ça, je pourrais vous en parler plus en détail. Et puis après, il faut que j'enlève le dispositif que j'ai mis en place en amont, les scotch, j'enlève tout. Il y a un travail sur la tranche pour que la tranche soit. J'ai des tas de petits dépôts sur la tranche qu'il faut que j'enlève. Et puis la séance du vernis brillant que je fais ou pas. Alors ça, c'est en option, mais ça se fait après. À un moment précis aussi, parce que pour pas qu'il y ait trop de poussière dessus, je passe le vernis, je pars vite de l'atelier pour ne pas remuer de la poussière, etc. Donc c'est un autre moment précis qui se fait cette fois-ci après. Donc la séance se fait un peu en trois temps, mais la partie de peinture à proprement parler se fait dans une après-midi.
C'est drôle que tu parles de tranches, parce que ce qui est très particulier dans ce support, c'est qu'il semble ne pas avoir d'épaisseur. C'est aussi pour ça que tu l'as choisi, non ? Comme une forme consolidée du papier.
Oui, enfin, c'est un support. Alors, l'histoire de mes supports, c'est que, j'ai jamais travaillé sur toile. Le support toile m'a toujours posé des difficultés, d'abord techniques, parce que j'ai jamais aimé le côté un peu ramollo de la toile qui s'enfonce quand on travaille. J'aime bien le côté, le contact un peu franc du papier sur la table ou sur le mur. J'aime bien cette souplesse de pouvoir utiliser des feuilles qu'on découpe, qu'on jette, qu'on... Voilà, il y a quelque chose, une grande liberté que j'ai toujours trouvée avec le papier. J'ai toujours... En plus, je travaille, je produis beaucoup. À une époque, je produisais 120-130 peintures par an, donc je ne pourrais pas stocker ni acheter autant de toiles. Je me sentais très libre avec ce support. Donc j'ai appris petit à petit à trouver des supports plat que je puisse aussi, c'était un autre enjeu, présenter, proposer à la vente tel quel aussi. C'était une autre difficulté. Après cette planéité du support, si au départ ça apporte donc il y a un enjeu pratique, après dans la définition de mon travail, ça s'est bien trouvé. C'était à un moment donné. Je parle beaucoup de la question de la reproduction, je parle beaucoup de la question de la page, de la feuille, du rapport entre la peinture et sa représentation, sa reproduction. C'est presque des affiches, des cartes postales, des détails, des photos. J'aime beaucoup le lien ou l'ambiguïté qui peut se produire entre quand on voit mon travail, on ne sait pas si c'est une photo d'une peinture, si c'est une peinture, si c'est... Donc cette ambiguïté-là, bien évidemment, elle est dans le travail. Et le fait de travailler sur un support plat, ça participe de cette ambiguïté. Ça serait sur une toile, ça serait différent. On n'aurait pas ce jeu de cache-cache, on n'aurait pas ce trouble qui s'instaure à un moment donné et qui m'intéresse, moi, beaucoup.
Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on a quand même de la peinture abstraite devant nous. Mais t'es pas dans la peinture objet, t'es vraiment dans la peinture image. Et en fait, c'était peut-être ma question, c'est quelle est la genèse en fait d'une peinture en fait. Qu'est-ce qui va être le début? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est quelque chose que t'as vu? Enfin, si tu peux.
Oui, dans une séance de travail, donc moi j'ai une approche très classique, c'est-à-dire que je ne pars jamais d'une image au départ qui pourrait se constituer sur un ordinateur ou quelque chose comme ça. Ce qui aurait pu être une option, c'est-à-dire puisque je suis dans la question des fois de se demander si c'est une reproduction, un détail de quelque chose, je pourrais très bien avoir un travail où en amont je sélectionne quelque chose sur un tableau d'un artiste du 18e, 17e, puis après je le reproduis, ça pourrait être en deux temps comme ça. En fait, c'est jamais comme ça. Moi, j'ai une approche très classique, c'est-à-dire que je pars d'une feuille blanche et je travaille sans savoir du tout en amont ce que, enfin, oui, en amont ce que je vais produire comme image. Alors évidemment, il y a des règles, il y a des choses qui sont définies. C'est sûr que le format est défini, la technique est définie. Je sais très bien que la peinture que je vais produire va être dans une parenté à ce que j'ai produit il y a une semaine. Mais fondamentalement, l'image, je ne sais pas ce que ça va être. Alors dans une séance, une fois que je suis dans l'action, une fois que tout est prêt, je commence par passer mon lien sur toute la surface. Et puis je travaille directement avec les tubes du pinceau au tube. Je n'ai pas de palette. Et puis je produis une première image comme ça. Je brasse un peu le lien, la peinture. Je travaille avec des rouleaux aussi. Et puis cette première image, en général, c'est un peu un tour de chauffe. Une image qui m'insatisfait. Donc j'en fais une deuxième. Et pour ce faire, je vaporise donc de l'eau sur la surface. Je passe un grand coup de rouleau et je remélange ce que je viens de faire. Donc j'obtiens une sorte de monochrome qui est le résultat des couleurs que j'ai décidé dans un premier temps d'appliquer sur la première étape. Donc je travaille une deuxième étape, je fais une deuxième image qui en général rarement me convient. Donc chaque image, je travaille à peu près 10 minutes dessus. Donc au bout de 10 minutes, ça ne me convient pas, je me dis c'est pas bon, je revaporise de l'eau, je remélange tout l'ensemble, je peux rajouter un petit peu de liant si je trouve qu'il n'y en a pas assez, et j'obtiens un deuxième monochrome, cette fois-ci un peu plus chargé des peintures que j'ai mises sur la deuxième étape, et je repars sur une troisième, et ainsi de suite. Donc une peinture, ça peut être, je peux m'arrêter à la 12e, à la 13e étape, à la cinquième, alors ça dépend du format. C'est vrai que sur des très grands formats, je fais rarement 12 étapes parce que là, je suis lessivé. Mais sur un petit format, ça peut tout à fait se produire. Mmh. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose de la mémoire de la peinture qui se révèle. Et c'est ce moment-là où je décide de me dire, je la mets à plat et j'attends que ça sèche. Et on verra demain si effectivement j'avais vu juste ou pas. Et le lendemain, il y a la révélation de ce que j'ai fait. Alors, plus ça va, plus je sais à peu près ce que ça va être le lendemain. J'anticipe un peu, je me dis oui, ça devrait bien fonctionner, ça devrait marcher, etc. Alors, le lendemain, il y a un moment de vérité qui est assez drôle, parce que soit j'ai raison et effectivement, dans ce que j'imaginais, voire même ça va au-delà de mes attentes. Voilà, ça peut paraître prétentieux, mais des fois c'est comme ça. Et puis il y a des fois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une désillusion totale. J'imaginais que ça allait bien marcher, je reviens le lendemain, je me dis, oh là là, non, je me suis complètement trompé, ça ne fonctionne pas du tout. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé, et là, il n'y a pas de rattrapage. Quoi. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
Mmh. Donc du coup, ton travail n'a rien à voir avec cette immense bibliothèque d'images que tu as, parce que Claire, du coup, nous expliquait qu'on était dans ton atelier, c'est vrai qu'on est entouré de reproduction de tableaux de grands maîtres, et donc du coup ces images n'ont rien à voir, enfin ta peinture a ce rapport avec cette bibliothèque, si tu peux nous en parler un peu.
Alors d'abord c'est un goût personnel. Moi je suis un grand arpenteur de musées, donc j'adore me promener dans tous les musées du monde que j'ai pu voir. C'est toujours, à chaque fois que je vais dans une ville, je vois le musée, même aussi insignifiant soit-il, je vais voir le musée de la ville, le musée des Beaux-Arts local, une petite ville au fond de l'Allemagne, je vais voir le musée, je vais voir ce qu'il y a dedans, même si c'est des croûtes, ça m'intéresse de les voir, de les photographier. J'ai une pratique de photographie de moments de peinture, j'appellerais ça comme ça, que je rencontre dans ces musées. Donc déjà c'est un goût pour ça. Ensuite je collectionne beaucoup de livres de reproduction, ça me plaît beaucoup, de cartes postales. Donc la question du passage de l'œuvre à sa reproduction a toujours été, au-delà du travail que j'ai pu produire après, a toujours été un intérêt pour moi. Le décalage aussi qu'il peut y avoir entre une reproduction, entre une œuvre et sa reproduction. La surprise qu'on a, ça c'est des moments magiques quand on connaît une œuvre que par sa reproduction en noir et blanc, puis d'un coup on découvre l'œuvre dans son vrai format, dans sa vraie couleur. Ça c'est des moments que je trouve très très étonnants. Du coup, après, je dirais que je suis chargé de tout ça. Voilà, il y a une charge de cette mémoire-là qui, à un moment donné, forcément, agit quand je travaille. Quand je reconnais quelque chose, à un moment donné, dans la pièce que je suis, que je m'apprête à garder, à un moment donné, je reconnais quelque chose, sans pouvoir forcément nommer les choses. Il m'est arrivé de me dire, tiens, ben là, je suis dans une partie d'un hodler ou d'un, je sais pas, ou d'un, tu vois, d'un marqué, et puis quand je vérifie, je dis, ben non, c'est pas du tout ça, en fait. Et je, finalement, cette mémoire, souvent, elle reste indéterminée. C'est la mémoire de quelque chose, mais sans que je puisse définir clairement le référent. Et c'est ça qui me plaît aussi. Ça serait, ça m'intéresserait pas si c'était trop lié à un référent. Et des fois, on m'apprend des choses. Quand je suis en exposition, on me dit, ah, ben là, t'as pensé à... Tiens, c'est rigolo, t'as pensé à Monet, ou t'as pensé... Ah, je dis, ah bon, tiens, j'avais pas réalisé. On m'oriente des fois. Vers... J'apprends des choses, souvent, quand... on joue ce jeu de à quoi ça ressemble.
C'est comme une mémoire double alors, parce que tu viens de parler de la mémoire de la surface elle-même, et puis il y a aussi cette mémoire plus longue, plus ancienne qui te charge. Et celle-ci en particulier, la grande, là, je trouve qu'elle donne cette forte impression de, je sais pas, de rémanence, de quelque chose qui s'ouvre, qui remonte à la surface.
Oui, bah c'est une. Alors si j'ai une pratique régulière de pièces en noir et blanc. Régulièrement, ça revient. J'ai envie de travailler des pièces qu'en noir et blanc, bon, parce qu'il y a des, parce que l'iconographie a été une époque souvent en noir et blanc, et que je collectionne beaucoup, notamment de livres anciens où les reproductions sont en noir et blanc. Et je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une magie. Souvent des reproductions très belles, souvent des choses qui sont assez envoûtantes et il y a une distance supplémentaire. Déjà que la reproduction, c'est une distance par rapport à la générale, mais le fait de ne plus avoir les couleurs, on peut partir vers des explorations incroyables sur l'œuvre si on ne la connaît pas. Est-ce qu'elle est toute rouge, est-ce que ça c'est de quelle couleur, ça c'est... Et donc, du coup, j'ai cette pratique-là et j'essaie de retrouver cette sensation-là, effectivement, plus mystérieuse, plus éloignée, plus distancé encore de la question de l'original. Donc, régulièrement, il y a ça. C'est un exercice qui est très difficile parce que le seul fait d'en avoir que le noir, parce que du coup j'ai le noir, j'ai pas de blanc, parce que le blanc c'est forcément le blanc du papier, j'ai pas de tube de blanc, j'ai que le tube de noir de Mars, c'est le seul que j'ai, et donc là c'est un bel exercice, et donc voilà, quand c'est réussi, je suis assez content sur le noir et blanc, parce que c'est...
Et celle-ci, par exemple, tu sais combien de couches il y a eu dessous ?
Non, je ne sais jamais exactement. À un moment donné, quelqu'un m'avait suggéré de faire des prises de vue de chaque étape. Des 12 étapes dont je parlais tout à l'heure, 15 étapes. Et puis je l'ai fait un temps, et puis je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, parce qu'au fond, c'était... J'avais envie de... Enfin, je me disais qu'au fond, c'est l'étape que j'ai choisie qui est la bonne, même si peut-être que certaines étapes auraient été... peut-être intéressante sur les précédentes, mais qu'au fond, c'est toujours celle-là que je retiens. Et donc j'ai arrêté de prendre, j'ai fait ça très peu de temps. Et alors il y a des moments qui sont très intéressants aussi, c'est les moments de remords. Parce que quand je choisis une pièce, je choisis de m'arrêter quelque part, c'est un moment qui est difficile. Surtout maintenant que je travaille à l'acrylique. Parce qu'avant, à l'huile, je pouvais attendre une heure ou deux, et puis de me dire, bon, si c'est pas bon, je repars, parce que c'est fou, avec l'huile, il fallait attendre le lendemain matin pour que ça soit vraiment sec. Là, l'acrylique a été à la fois quelque chose de... à la fois une hygiène pour moi, et en même temps, ça m'a contraint à travailler beaucoup plus vite. Et donc, ça a participé quelque part à mon travail aussi. C'est-à-dire, quand je suis dans une étape à l'acrylique, j'ai 5 minutes, 10 minutes pour décider si c'est la bonne ou pas. Parce qu'après, c'est 7 et c'est fini. Donc, je dois aller encore plus vite. Et donc, une fois que c'est tout, une fois que j'ai dit non et que je remélange, et ben, la pièce précédente, elle me hante des fois si la pièce suivante, elle est encore moins bien. Ça m'arrive des fois. Il faut savoir si je suis sur la pente descendante ou si j'en ai encore sous le pied. Il m'arrive des fois d'être sur la pente descendante. Et celles que j'ai supprimées, pour des raisons diverses, j'ai des remords. Je me dis, j'aurais dû garder celle-là. Parce que c'était bon et j'arrive plus maintenant à être sur ce pic-là. Et je rame comme un fou. J'en fais 14, 15, et toutes elles sont ratées, et toutes ça, et rien ne me va. Et je suis dans la hantise perpétuelle de cette pièce que j'ai, qui a disparu. Mais j'aime bien cette idée aussi de celle-là qui a disparu et qui est, qui reviendra jamais, quoi. Je ne pourrai jamais refaire.
Parce que du coup, tu nous as parlé du noir de Mars, et moi, la question que j'aurais envie de te poser, c'est quel est ton rapport à la couleur, en fait ? Est-ce que tu pourrais nous parler de la couleur ?
C'est une question difficile. Je me souviens qu'Éric Suger m'avait posé cette question à la présentation dans l'art dans les chapelles, et je lui avais dit, tu sais, je prends les peintures chez le marchand qui sont soldées, parce qu'elles sont un peu moins chères, les tubes qui sont un peu moins chères. Bon, c'était un peu une provocation, le public, c'est pas bien, ce genre de provocation. Disons que c'est pas un vrai souci, la couleur. En général, c'est vrai que quand je travaille, je prends les tubes un peu au hasard, plus ou moins. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il y a certaines couleurs qui vont s'imposer dans une relation aux autres, pendant le travail, mais ce n'est pas un souci fondamental, la couleur. Alors j'ai aussi des tubes qui fonctionnent bien, parce que j'ai besoin à l'acrylique, ce que j'ai perdu par rapport à l'huile, il y a une densité du pigment à l'huile qu'il n'y a pas à l'acrylique. Donc ça a été très compliqué au départ, parce qu'il suffisait d'un petit point des fois d'indigo, de bleu indigo à l'huile, et c'était une explosion. Là, il faut que j'en mette des tartines d'acrylique pour avoir le même pouvoir de coloration. Donc à l'acrylique, j'ai des fois des tubes qui fonctionnent très bien, qui sont très denses au niveau de la couleur, et du coup j'ai tendance à plus les utiliser que les autres, pas pour leur couleur, mais pour leur charge pigmentaire. Donc ça oriente des fois simplement la couleur que je vais choisir.
Et par rapport au processus, je reviens un peu en arrière peut-être, mais ça veut dire que tu travailles sur une surface de plus en plus humide, où les choses se diluent de plus en plus au fil des étapes.
Non, parce que la liquidité est à peu près la même d'une étape à l'autre. Parce que je revaporise un peu d'eau régulièrement, mais je peux rajouter un peu de liant. J'ai à peu près la même liquidité à chaque fois. Il faut que ça soit assez liquide, je travaille vraiment dans le très frais. Et puis petit à petit, ça sèche. Oui, c'est sûr.
Et il n'y a jamais un autre geste d'effacement que le fait de vaporiser ?
Y a la vaporisation et un coup de rouleau ou un coup de pinceau.
D'accord.
Pour remélanger tout l'ensemble.
D'accord.
Pour faire disparaître l'ensemble. Je garde rien parce que ça, c'était sur des très grands formats. À un moment donné, je pensais... ce qui se passait sur des très très grands formats, c'est que j'ai eu peint à une époque des 3 mètres sur 1,50 m. Qui était sur un autre type de support. Mais quand on travaille dans le frais, exclusivement dans le frais, sur ces formats-là, il faut tout tenir en même temps. Tu ne peux pas laisser sécher une partie et te dire « je vais travailler sur une autre partie » parce que le raccord ne se fait pas et que ça ne fonctionne pas. Donc c'est pareil, il faut que la peinture sorte comme si c'était un tout petit format, d'un coup. Donc là, c'était extrêmement sportif. Je travaillais à plat, et je tournais à toute vitesse autour de ma table, je montais sur des escabeaux pour avoir une idée. J'étais épuisé quand je faisais des grands, grands formats comme ça. Et donc, il ne peut pas y avoir une partie qui soit satisfaisante et l'autre pas satisfaisante. Il faut que le tout soit satisfaisant. Et donc, je sais par exemple que si j'ai un petit format, enfin, si j'ai un format donné et que j'ai une partie qui me convient et une autre qui ne me convient pas, il faut que je supprime l'ensemble. Donc, des fois, c'est terrible parce que je me dis, cette partie-là, j'aurais bien aimé la garder, elle me plaît bien, mais je ne peux pas parce que ça ne fonctionnera pas. Ça sera du rafistolage et ça fonctionne pas. Il faut que ça sorte d'un coup comme ça dans le frais. Donc je suis obligé de renoncer par moment à des choses qui me plaisent, qui apparaissent et qui me plaisent parce que c'est le tout n'est pas là.
C'est des blocs.
C'est comme une photo. Quand tu prends une photo, tu te dis pas tiens ce bout là me plaît, je vais essayer de retravailler le reste. C'est ta photo, elle est bonne ou elle est pas bonne. Ben, j'ai le même principe parce que il y a toujours une analogie finalement à la reproduction et à la photo. Je trouve qu'il y a aussi des analogies dans la façon de faire. Bon, souvent, on prend beaucoup de photos, on choisit après les photos. Moi, je ne peux pas les retravailler, mais voilà, c'est des instantanés comme ça, à un moment donné de peinture. Et donc, elles sont comme une photo, c'est comme un cliché, c'est pris d'un coup.
C'est assez fort dans ton travail, ouais. Enfin, cette espèce de spontanéité. Alors, enfin, tu nous as expliqué qu'en final, il y a 14, peut-être 15, voire plus de passages. Et à la fin, ouais, il y a ce côté peut-être très photographique d'un instant de peinture, en effet. Et après, enfin, moi, ma question, ça va être plus parce qu'en fait, du coup, on a peut-être quelque chose de plus ancien. au niveau de la surface de peinture où on sent plus le pinceau. Et c'est vrai que là, les toiles qu'on... Enfin, les toiles, les peintures qu'on a... Est-ce qu'on peut appeler ça des toiles qui sont en face de nous sont quelque chose... La surface est différente, en fait. Donc, du coup, ma question, ouais, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la surface peinte?
Alors, sur les pièces qui sont actuellement au mur, ça correspond à une période de travail où j'ai découvert, comme un enfant, tout d'un coup, je pouvais, avec des rouleaux, obtenir de façon un peu mimétique le grain un peu de la toile quand on s'approche vraiment, ou quand il y a un relief. Donc cette illusion me plaît beaucoup, puisque dans la réalité, quand on regarde les peintures, quand on les caresse ou on les garde de biais, c'est totalement lisse. C'est comme une photo, il n'y a absolument aucun relief. Or, on perçoit malgré tout un relief, qui est une illusion en fait de relief. Donc en ce moment, je m'amuse à ça, ou une illusion sur la violette, par exemple, d'un papier aquarelle qui serait un peu épais, avec un velouté dans le papier. Dans la réalité, c'est complètement lisse. Donc ça, j'aime beaucoup cette illusion-là, j'aime beaucoup travailler ça. Ce qui ne veut pas dire que... Alors ça, c'est le produit d'un travail avec un rouleau. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres pièces qui ne sont pas travaillées qu'au pinceau et qui produisent un autre effet, autre chose. Voilà. Et si j'avais à sortir les pièces, peut-être je ferais un accrochage peut-être plus varié que celui qui est dans l'atelier en ce moment, qui est simplement le reflet de des obsessions du moment. Quoi.
Et la question de la marge blanche qui est sur celle-ci?
Alors ça, c'est une vieille histoire que j'ai depuis très longtemps, avec régulièrement ça revient, comme une espèce de litanie, comme ça, qui tous les ans, tous les deux ans, il y a cette question qui revient, c'est-à-dire ménager une partie blanche en bas ou sur les côtés. Il y a plein de choses qui peuvent être plein d'interprétations possibles. La plus simple, c'est effectivement le bas de la feuille, le bas de la reproduction, la partie blanche qui est dans le livre, en bas de la feuille, mais ce n'est pas nécessairement ça non plus. Voilà, c'est une piste seulement. Et j'ai des séries qui régulièrement produisent ça, produisent cette marge, donc que je décide évidemment avant, parce que je préserve une partie de la feuille, et puis... Et je décide de travailler comme ça. Donc là, il se trouve que j'ai repris ça. Je n'avais pas travaillé depuis très longtemps. Et... Alors, c'est un avantage aussi, c'est que dans ces formats-là, qui sont des 70 cents, ça permet de travailler des carrés. Du coup, un format que je ne travaille pas, puisque la feuille, je ne la découpe jamais en carré. Mais là, du coup, ça me permet de rester dans mes formats et pour autant de travailler en carré. Ce qui est, tu le sais très très bien, un format qui est compliqué à travailler, le carré.
Donc pour décrire en fait ce qu'on s'était dit, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'en fait les peintures qu'on a en face de nous, il y a une espèce de, comment dire ça, c'est quelque chose comme un zoom d'une reproduction, enfin j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais c'est ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire qu'en fait t'as l'impression d'avoir zoomé à l'intérieur d'une peinture, et quand je me tourne en fait j'ai une autre peinture à côté de moi qui est peut-être plus ancienne, où du coup en fait on est plus dans une peinture abstraite. Donc du coup, ma question, ça serait, c'est pour toi l'abstraction, tu le situes où dans ton travail, en fait, entre ce côté, ce rapport à la photographie, à toutes ces images, et puis peut-être quelque chose de peinture plus abstraite, enfin tout est quand même très, très abstrait.
Je dirais que la peinture que tu as sur ta droite est une peinture dont le zoom a été moins prononcé que les autres.
D'accord.
C'est simplement ça. Je pense qu'à un moment donné... Enfin, on ne sait pas en même temps. Hein. Ça peut être aussi un zoom très important. Ça peut être... Je suis tout le temps en train d'actionner le zoom entre les focales qui sont différentes. Quoi. Alors, à un moment donné, sur l'abstraction, moi, je me pose la question, parce que si c'est la reproduction d'un détail, c'est forcément figuratif, du coup. Si c'est la reproduction de quelque chose. Tu vois ? Donc, j'aime bien cette ambiguïté-là aussi. C'est-à-dire de ne pas être dans la fabrication d'une peinture abstraite, mais quelque part d'être dans une espèce d'interstice entre les deux. C'est-à-dire que si on pense que c'est une photo, c'est qu'une photo, c'est jamais complètement abstrait, c'est forcément la reproduction de quelque chose. Alors c'est abstrait effectivement parce qu'on ne discerne pas d'éléments qu'on peut identifier, si tu veux. Mais j'aime bien aussi osciller entre ces deux sensations. On est dans une abstraction parce que ce qu'on voit n'est pas reconnaissable, et en même temps, si on suit le chemin ou la piste de quelque chose qui serait une représentation, là, on ne peut pas s'empêcher. Si on parle de grain de la toile, bah déjà, on est dans quelque chose de presque figuratif. Mmh. Et c'est une autre idée de la figuration. Alors, je réponds pas tout à fait à ta question.
Si,
mais...
si. Très satisfait de la réponse. Bon,
est-ce que c'est un peu comme un souvenir de peinture sur lequel tu n'arriverais pas à mettre la main? Est-ce qu'il y a cette dimension de... Ouais.
Oui, tout à fait, oui. Mm. Il y a une belle, il y avait un beau texte que Pierre Vatte avait écrit sur mon travail où il parlait de la mémoire de la sensation. Mm. Et effectivement, oui, ça, cette idée d'un souvenir qui fuit, qui n'arrive pas à cerner complètement, oui, ça, c'est quelque chose qui est une belle piste de lecture. Mm. Tout à fait. Et moi-même, d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi-même, je ne sais pas exactement, effectivement, l'origine de toute chose. Hein. J'ai mes propres lectures, effectivement. Je sais, à un moment donné, je peux vous dire, cette œuvre-là me fait penser à tel artiste, mais peut-être pour vous, ça ne sera pas du tout ça. Vous ne verrez absolument pas le lien avec ce que je fais moi. Dans ce qui est intéressant, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que ce lien, il ne soit pas évident, forcément. Il l'est pour moi, parce que dans mon histoire et ma mémoire, je sais qu'à un moment donné, je me suis arrêté sur ça. Mmh. Et la petite peinture qui est dans mon dos, la toute petite, elle est née... moi, j'ai une passion pour le 19e, je reconnais. Je m'accroche beaucoup à cette époque. Je trouve qu'il y a une espèce de fragilité que je trouve intéressante dans cette époque-là. Et beaucoup de petits maîtres aussi m'intéressent. Et puis, j'ai exploré, par exemple, pas mal le 19e, la fin du 19e en Espagne. On est allé beaucoup en Espagne, j'ai beaucoup voyagé là. Et il y a un artiste qui est espagnol, je ne le prononcerai pas à la catalane, je ne sais pas bien, qui s'appelle Ramon Casas, et qui me hante depuis longtemps. Il y a un livre que je viens d'acheter de lui, ça fait peut-être 10 ans que je le cherche. J'ai enfin trouvé un livre sur ses dessins que j'avais vu il y a très longtemps. Et cette petite peinture, pour moi, elle incarne complètement cet artiste-là. Mais c'est sûr que ce n'est pas forcément évident au départ. Mais je sais que moi, j'associerai toujours cette œuvre-là avec cet artiste-là.
D'accord.
Qui n'est pas forcément évident que si vous feuilletez un livre, vous n'allez pas dire, bah oui, c'est bien pour ça, mais c'est bien sûr, c'est le mien. Mais pour moi, c'est je ne sais pas, à un moment donné, j'ai vu quelque chose de cette peinture et ce détail que j'ai vu est resté accroché quelque part et à un moment donné, bah, ça s'est trouvé dans une peinture.
Et c'est le cas pour chacune de tes peintures, ça?
À un moment donné, oui, puisqu'il y a toujours quelque chose de la mémoire de la peinture qui remonte. Alors, encore une fois, je ne peux pas nécessairement mettre de nom à chaque fois. Ça peut être simplement des gestes que j'aime, des moments de peinture que j'aime.
D'accord.
Et quand je visite des expositions avec des amis artistes, je sais que ma femme est souvent assez consternée par ce qu'on dit, parce que des fois, c'est... J'ai un ami, on se dit, regarde, le triangle en bas à droite, on aime. Et tout de suite, il y a cette complicité. On dit, oui, je l'avais tout de suite vu aussi, ce petit bout à droite, à droite. Et elle me dit, mais je vois rien, moi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce triangle en bas à droite? Parce que ça a coulé, parce qu'il y a un petit truc qui est... Alors que l'œuvre est figurative et qui n'a rien à voir avec ça. Il y a cette espèce de... J'ai un artiste, un jour, qui m'avait dit, en Suisse, tu crées une espèce de code de communication entre les gens. C'est-à-dire que ce qui n'est pas forcément... ce qui ne peut pas être nommé... Eh ben, tu crées ce lien entre les gens qui aiment la peinture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on reconnaît des choses qu'on a vues, on ne peut pas dire pourquoi ça nous a plu, ce moment de peinture-là, mais du coup, c'est comme un vocabulaire qui permettrait de dialoguer sur cette thématique-là avec les autres artistes. Mmh. On se dit, oui, tu vois cette partie-là, ce moment où ça fait comme ça, où on peint comme ça, où l'artiste a voulu faire ça. Oui, bien sûr, c'est impossible à dire avec les mots, mais... Voilà, ça met le doigt sur ce qu'on peut aimer en commun sur une peinture.
Ce qui est rigolo aussi, depuis tout à l'heure, vu qu'on essaye de faire quelque chose au niveau du son et de la radio, je me dis, il faut quand même qu'on arrive à décrire une des peintures. Impossible.
C'est très difficile.
C'est très très difficile. Mais ça continue à ce que tu dis, ce côté de mémoire, en fait, cette sensation de peinture. Mais c'est vrai que pouvoir décrire, depuis tout à l'heure, j'ai une peinture qui... Je pourrais pas, enfin j'ai l'impression d'avoir une petite tache d'ocre qui descend sous un triangle un peu plus rouge avec une bande verte à côté, mais c'est pas ça, donc enfin, c'est assez fou comme. Mais du coup, c'est vraiment cette sensation, et avec ce que tu viens d'exprimer, c'est que oui, ça me parle d'une peinture, mais c'est. Ouais, ça marche super bien.
Bah, celle-ci, c'est. Ce qui m'a retenu à un moment donné, dans cette étape-là, c'est le fait qu'il y a quelque chose de très estompé, finalement, dans le résultat. C'est comme si cette peinture, elle était passée 25 fois dans la machine à laver, à un moment donné, il ne reste plus qu'une petite trace, plus qu'une petite. Et des fois, on a ça sur certaines peintures, ou certaines reproductions aussi, on a ça, ce côté, finalement, on n'a plus qu'une espèce comment dire, on n'a plus qu'une trace finalement, il reste qu'une trace de quelque chose. Ben, j'avais fait, ça me fait penser à une anecdote comme ça, dans la cuisine de mes parents, quand j'étais enfant, on avait une reproduction qui était, je ne sais plus ce que c'était que ce tableau, qui était reproduit. Et mon père, qui était très pragmatique, avait décidé que même si la reproduction était plus grande que le cadre, on allait piller la reproduction pour que ça rentre dans le cadre, enfin chercher un nouveau cadre. Donc pendant des années, ça a été plié, comme ça. Et un jour, on a déplié. Et là, incroyable, je redécouvrais la partie. Donc tout d'un coup, il y avait un rapport entre la partie pliée qui avait été préservée de la lumière, donc qui avait conservé toutes ses couleurs de reproduction, et l'autre qui avait pâli complètement.
Ah oui.
Et ça m'avait complètement fasciné. Et là, cette peinture-là, bah, c'est la partie pâle.
Ah oui,
que
oui.
J'ai fait là.
Et c'est pas ça l'histoire de la marge, le pli?
Oui, 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 oui. Mais le pli est quelque chose qui me manque. J'ai commencé à travailler sur le pli, mais je suis pas tout à fait satisfait encore de ce que j'ai produit. Une autre de mes obsessions, c'est quand j'achète des livres d'art, surtout sur les éditions d'artistes anciens, les éditeurs trouvent intéressant de rajouter une jaquette brillante tout autour. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, en tant qu'acheteur, la première chose que je fais, c'est que j'enlève cette jaquette. Ce qui permet de découvrir souvent dans le livre une espèce de tissu collé, qui est souvent assez beau, qui peut être... voilà. Et j'ai un rapport d'amour-haine avec cette jaquette. Alors je la garde quand même, j'ai des quantités de jaquettes qui sont stockées à plat dans des cartons. Je les ressors de temps en temps, ça m'est arrivé de faire des accrochages dans mon atelier avec ces jaquettes. Et alors c'est peut-être pour ça que je vernis mes peintures. Si vous me posez la question, je pense que c'est peut-être lié à ça. C'est des jaquettes toujours pelliculées pour pas qu'évidemment on abîme le livre, qu'on salisse, etc. Et donc ces jaquettes me fascinent totalement. Et il se trouve qu'elles sont pliées aussi. Donc la question de la pliure est quelque chose qui me hante depuis très longtemps. Et voilà, je pense que petit à petit ça va apparaître. Ça a commencé, mais voilà, je suis pas encore tout à fait au bout de cette histoire. Je suis même au tout début. Voilà. Et donc voilà l'histoire des jaquettes aussi, c'est quelque chose qui, c'est un élément qui est perturbateur dans mon travail et dans mon rapport au livre.
Et du coup, est-ce que tu as une pratique photographique?
En dehors des peintures que je fais dans les musées, oui, mais qui est voilà, un peu comme tout le monde, quoi. Je m'amuse quand je voyage, quand je vais faire quelques photos, mais voilà, je n'y accorde pas plus d'importance que ça.
Pour essayer de continuer quand même un peu de décrire, la même que ce que tu regardes, Sylvain. Donc il y a cette chose très délavée, et puis il y a aussi ce sentiment effectivement d'être presque dans la matière d'une surface, comme un très très gros plan, presque dans un microscope, d'une surface dont on verrait la texture.
Oui.
Et je ne sais pas si je vais arriver à dire ce que je veux dire. Pour moi, il y a un rapport... à l'effacement, comment dire. Enfin, ce qui me frappe dans la façon dont tu as décrit le processus, c'est que finalement, ce qui fait la peinture, c'est un arrêt. Et j'ai aussi l'impression que ce processus, il est constitué, enfin, que les gestes déterminants sont ceux qui effacent. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est un rapport entre ajouter et enlever, ajouter et effacer. Il y a cette espèce de mouvement contradictoire qui est tout le temps dans un sens, et puis on efface, on recommence, on efface. tout le temps un mouvement comme ça, une sorte d'oscillation comme ça, entre rajouter des choses et puis à un moment donné, tout effacer et recommencer.
Sans que la surface ne porte jamais d'épaisseur liée à ce...
Non, parce que c'est toujours tellement liquide que après effacement, ça reste... Je suis toujours dans le lisse, même quand je travaille, à la fois dans le résultat et dans le travail, il n'y a jamais d'épaisseur.
C'est ça.
Je suis toujours dans le lisse et le frais, et de plus en plus, oui. Là, par exemple, bon, c'est des détails qui sont peut-être pas forcément très explicites quand on les raconte, mais... L'avancement de ces dernières semaines, c'est que je me suis rendu compte que en étant plus liquide et en essayant de travailler avec les rouleaux, je ne sais pas comment dire, je suis un peu au bout de ma phrase là, c'est pas ça que je veux dire. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis toujours obligé d'être entre deux états, c'est-à-dire je ne veux pas non plus que le travail soit la démonstration finalement d'une technique qui me permettrait de donner l'illusion d'une photo de quelque chose. Ce n'est pas ça l'idée. Je suis aussi peintre. Je suis surtout peintre. Ce qui m'intéresse, c'est de produire des peintures et de produire des images à l'arrivée. Donc, j'ai toujours l'impression d'être un peu comme les pianistes qui ont à la fois une partition sur la main droite et une partition sur la main gauche. Et quand tu entends, à moins d'être vraiment d'avoir une très bonne oreille, mais tu fais pas forcément, tu dissocies pas les deux quand tu écoutes. Ou alors, faut faire l'effort de dissocier les deux, mais sinon, tu écoutes un ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'avec ma main droite, je peins, et avec ma main gauche, je réfléchis à peindre ce que je suis en train de faire. Tu vois ? C'est-à-dire que je suis obligé de peindre un peu au second degré, au deuxième degré en même temps. C'est-à-dire que je peins de la main droite pour produire une image, parce que je veux être peintre, parce que je démarre d'une surface blanche et que je veux produire quelque chose qui est l'ordre de la peinture. Et en même temps, de la main gauche, j'ai un mouvement de retrait. En me disant, là, je suis heureux de ce que je produis, de cet effet de distanciation. Donc j'essaie toujours d'être dans les deux en même temps. Quand c'est trop dans l'un, ça ne me plaît pas. Si je suis trop dans la démonstration de quelque chose, ça ne me plaît pas. Et quand il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là, ça ne me plaît pas non plus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mmh. Si, ça va bon.
Ouais.
Donc, c'est ces deux mouvements coordonnés que j'essaye de mener. Et sur la peinture violette que tu aimes bien, par exemple, il y a un moment donné où il y a bien cet effet de granulation, de papier aquarelle qui peut être de près. Mais quand tu regardes la partie haute, on la perd presque, on est presque dans une partie qui pourrait être sans ce souci-là. Et j'aime bien justement avoir les deux, parce que du coup, là, on est dans une hésitation. Il faut que ça reste dans cette hésitation-là, qu'on ne soit pas certain finalement de ce qui se passe. Parce que ça deviendrait mécanique et ennuyeux. Je n'ai plus la question que tu me posais.
Peut-être quand même dans la description... C'est bien qu'on insiste sur le fait, qui est évident mais qu'on n'a pas dit, que c'est très très lisse, c'est-à-dire la peinture, elle ne sort pas du mur en termes de relief. C'est vraiment comme une découpe dans le mur, très nette.
Oui.
Et ton support, donc le Klöckner, il est vraiment à même le mur. Et c'est important ça.
Oui, c'est très important. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de... que ça soit juste posé sur le mur. J'aime bien cette idée de poser sur le mur. J'aime bien les livres à l'ancienne où, vous savez, on est sur un papier genre Velin d'Arche, et puis dessus est juste collé, à peine collé, une petite vignette qui est la reproduction de la peinture, qui elle est brillante, et qu'on peut avec le doigt délicatement soulever, comme ça. Voilà, ça me plaît beaucoup. J'aime bien passer le doigt à cet endroit-là pour voir qu'il n'y a pas de relief, qu'on passe du grain à la reproduction qui est toute lisse. Et ben c'est le même effet avec mon travail, on pourrait passer le doigt entre le mur et la peinture sans qu'il y ait à un moment donné la sensation qu'il y a un relief ou une épaisseur.
Donc ça sous-entend que le mur prend une importance aussi dans ton travail.
Oui, c'est pas rien le mur. Oui. Le mur c'est pas rien, j'avais dans l'exposition que j'ai faite au musée des Beaux-Arts de Rouen, j'avais décidé de repeindre les murs de la même couleur que les autres salles qui accrochaient les tableaux, et donc d'essayer de me fondre un petit peu, et donc du coup j'ai accroché sur des murs colorés, et j'aime bien cette idée quelque part. Je sais pas très bien où ça va, mais voilà, c'est oui, le mur est finalement plus important qu'il n'y paraît. Et le souci, à un moment donné, ça a été d'accrocher et de proposer la pièce telle qu'elle. C'est-à-dire que là, à l'atelier, c'est fixé pour des commodités avec des aimants, mais la pièce que tu as là sur ta droite, bah, il n'y a plus d'aimants. Et pourtant, elle est exactement... il y a la même impression que les pièces qui sont sur les autres murs, donc à l'étude. Et donc, il a fallu que j'invente un système, un dispositif pour qu'on ait la même impression, voilà, et que ce soit possible de l'exporter comme ça.
C'est-à-dire que tu dissimules la façon d'accrocher.
C'est ça, oui.
Donc c'est vraiment le rectangle qui nous apparaît.
Voilà, pour qu'il n'y ait que le rectangle et qu'il n'y ait que cette impression d'une image finalement sur le mur, oui.
Mais tu parlais d'entre-deux, et j'en reviens encore, en fait, c'est vraiment cet entre-deux et cette question, bah, à travers l'histoire de l'art, on nous a parlé de cette peinture objet, cette peinture image, et c'est vraiment ce rapport à l'image et ce rapport à la matière, à la surface, à la couleur, que je trouve vraiment très, très, très beau dans ton travail. C'est fascinant, en fait. On arrive à se demander qu'est-ce qu'on a devant les yeux. Enfin, du coup, je trouve ça vraiment extrêmement fascinant. Là, c'est pas du tout.
C'est à la fois une image et c'est à la fois un objet aussi. Finalement, j'arrive. Je suis plus dans l'objet presque si je peignais sur toile. Parce que l'objet toile, il est codé. Donc on ne se dit plus, tiens, c'est sur toile. Tu regardes une peinture, penses pas à la question de l'objet puisque c'est forcément, il est codé, c'est sur toile. Donc tu ne te mets pas forcément de biais, sauf les artistes qui regardent comment c'est fait. Mais sinon, quelqu'un qui regarde une toile, il ne va pas s'occuper de savoir comment est la couleur du châssis. C'est pas le problème, c'est codé, donc c'est une image. Alors que finalement, moi, en produisant une image très plate, finalement, j'attire l'attention plus, finalement, quelque part, sur l'objet aussi. C'est qu'est-ce que c'est que cet objet, pourquoi il est sur le mur, pourquoi il flotte légèrement, les questions qui sont...
Cette question d'entre-deux, on est dans la photographie, on est dans la peinture, si c'est de la peinture, mais c'est un rapport à la photographie, il y a toujours cet entre-deux, et en fait, ouais, c'est... Ça rend les choses instables, mais confortables à la fois.
Oui, j'aime bien cette idée d'instabilité et de confort en même temps. Oui, ça me plaît bien.
Oui, il y a aussi une sensation un peu inconfortable qui est celle du glissement. Et j'ai l'impression, en fait, la peinture, elle ne s'enfonce pas dans ta surface. Ça glisse vraiment.
Oui, plutôt. Alors, c'est sûr, je ne travaille pas sur un papier aquarelle avec des marques définitives. Oui. C'est sûr, tout est, quand je travaille, tout peut s'enlever. Je peux très facilement repartir sur la surface complètement blanche. Car jamais rien n'est définitif, sauf une fois que c'est sec. Oui. Et puis, c'est sûr que le fait que ça soit un support... plastique quelque part, oui, ça permet certains effets que je ne pourrais pas avoir sur un support qui absorberait davantage.
Et du coup, la grande question qu'on a avec Claire, c'est du coup pour toi, quand est-ce qu'une peinture est finie?
Alors, comme je disais tout à l'heure, quand à un moment donné, elle me révèle la mémoire de quelque chose. C'est à ce moment-là que je considère que c'est fini. Elle, pas forcément parce que plastiquement, formellement, elle me satisfait. Des choses qui me satisfassent beaucoup pendant le travail, mais qui ne répondent pas à cette règle-là. Et donc j'arrête au bout du deuxième ou du troisième passage, ou du douzième. Quand à un moment donné, il y a quelque chose qui remonte de la mémoire, de la peinture. Et je me dis, tiens, là, il y a quelque chose qui me fait penser. Ah, tout à l'heure, je parlais d'Armène Casas. Il y a quelque chose de cet artiste qui remonte, donc hop, j'arrête. Je dis que là, c'est bon, je pourrais continuer, et peut-être ça passerait ailleurs, ça passerait sur un autre artiste, ou sur autre chose, ou sur un autre geste, un autre mouvement, mais celui-là me convient. Et si c'est pas satisfaisant avant, c'est qu'il y a quelque chose de vide, de cadavérique avant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de froid, et il se passe rien, il n'y a pas rien d'évocateur, rien d'évoquant, il n'y a rien de... Voilà, c'est... Donc c'est d'autres critères, c'est pour ça qu'en fait, dans une séance, je peux passer à des images complètement différentes. C'est-à-dire que je peux avoir des choses totalement gestuelles, des choses avec des parties plus dessinées, des choses... au sein d'une même séance, il y a des choses, ou en termes d'image et de ce qui est produit, qui sont très différentes. Parce que le critère n'est pas celui-là. Le critère n'est pas faire toute une série qui serait géométrique avec une tache rouge en haut. C'est pas ça. Et après, je passe à autre chose. Là, du coup, j'ai des productions très, très, très variées, très, très hétérogènes, hein, au terme d'image.
J'avais lu dans un texte d'Éric Suchère sur ton travail, en fait, qui parlait de série, en fait. Et du coup, ouais, tu pourrais nous en parler de ce rapport à la série, du coup.
Alors, il parlait beaucoup de grammaire. Enfin, j'aimais beaucoup, si c'est le texte qu'il a écrit sur l'expo de Montbéliard.
C'est ça.
Ouais. Il parlait beaucoup d'hétérogénéité grammaticale, il parlait beaucoup de ça. Et je trouve que c'est un texte qui est très, très beau et toujours très pertinent, même s'il a été écrit il y a très longtemps. Toujours très très pertinent.
Et du coup, en fait, moi, c'était plus par rapport aux séries, en fait.
Ah oui, la question de la série.
Peut-être que maintenant tu t'en es un peu échappé.
Oui, parce que en fait, c'est plutôt des questions de format qui vont être identiques, effectivement, puisque je travaille sur 4 formats, donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une série parce que les formats sont identiques, mais finalement, je suis pas sûr qu'entre les deux peintures là qui sont au mur, il y a forcément un lien. Il y a un lien par exemple sur le grain, mais après c'est des choses qui sont relativement éloignées finalement en termes d'image. Et ça, ça me convient bien. Ce contraste me convient bien.
Ouais, non, c'est pas du tout l'impression d'être en série.
Quand tu feuillettes un catalogue sur les collections de la Tate Gallery à Londres, t'as pas les mêmes peintures. À l'intérieur. Tu passes d'un contraste à l'autre complètement différent. Et ça m'intéresse de retrouver ça, ce contraste. Et dans une exposition, j'essaye de montrer des choses assez contrastées pour que justement, on soit perturbé, on se dise, tiens, c'est peut-être pas forcément un seul artiste qui
est là. D'où cette côté d'originalité grammaticale.
Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Qui n'est pas sans poser problème, parce qu'on se dit, tiens, mais bon, bah après, il n'a pas de style, il n'a pas, ça reste.
C'est plusieurs.
Voilà, oui. Où je me cache derrière quelque chose aussi.
Ouais, je pense que si je vois un élasticard, je sais que ça a l'air
oui, hein. Alors paradoxalement, c'est vrai qu'on me dit aussi, on reconnaît ton travail à des kilomètres, ça je ne me rends pas compte, mais sur d'autres données, sur d'autres. Voilà, que forcément sur l'image que tu vas voir. C'est autre chose qui va te permettre de te dire, tiens, c'est un travail élasticard.
Je voudrais poser une dernière question pour être sûre d'avoir bien compris.
Vas-y, vas-y.
Dans le processus, tu t'arrêtes au moment où te revient une sensation de peinture. Mais la sensation d'une peinture précise ?
Pas nécessairement.
Non, d'accord.
Pas nécessairement. Bon, des fois, je peux mettre un nom dessus. Comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, il arrive par moment que je mette un nom, effectivement. Et puis, je vais vérifier. Je me dis si c'est un bout de... Bon, je ne sais pas... un Galen Kalela, je vais vérifier, je regarde, et puis des fois j'ai je suis persuadé d'une peinture précise. Et quand je vais regarder dans mon livre sur la peinture précise, je regarde, je dis mais c'est pas du tout ça, pourquoi j'ai pensé à ça? Et du coup ça renvoie la référence à quelque chose de beaucoup plus flou que ce que je n'avais imaginé au début. Mais j'ai cette espèce de je suis persuadé qu'à un moment donné j'ai vu ça quelque part. Tu sais, c'est comme ces gens que tu croises. Moi, je suis très visuel, donc le visage, je vois quelqu'un que j'ai vu il y a 10 ans, je vois le visage, je me dis, oui, je sais que je connais. Le nom, alors ça, j'ai vu, bonjour madame, alors ça peut durer 10 minutes, je ne sais absolument pas qu'il y a cette personne, mais je sais intuitivement, à un moment donné, j'ai vu quelque part. Parce que le visage, ça, je n'oublie pas. Et ce moment de peinture que je retrouve là, bah, il est familier. Voilà, c'est ça, c'est que les choses sont familières, à un moment donné. Toutes les étapes avant, c'est des choses qui me sont étrangères. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'est familier. Et ça m'intéresse. D'un coup, ça me vient. Sans que forcément je puisse dire pourquoi. À quelle famille cette personne appartient? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que je l'ai vue dans un voyage il y a 10 ans? Je sais pas, mais il y a cette familiarité autour de ce que je vois.
C'est un peu comme si tu étais dans l'inconscient de la peinture aussi.
Oui.
Et dans le tien. Enfin, il y a cet entremêlement.
Oui, dans je plonge dans ma mémoire de ce que j'ai pu voir, de toutes sortes. Moi, j'aime que mon catalogue, finalement, de peinture imaginaire, ma tête, soit nourri par toutes sortes de choses. C'est-à-dire à la fois les belles peintures dans les grands musées, mais à la fois les plus immondes croûtes que j'ai pu voir dans les plus immondes galeries. Tout m'intéresse. Pas au même niveau, mais à un moment donné, j'aime puiser aussi dans des choses insupportables. Et quand je travaille, c'est ça aussi, par moments aussi. Il y a des choses qui m'arrivent qui me sont insupportables. À une époque, je vivais dans un pavillon et j'avais un jardin. Je n'ai pas du tout la main verte, mais j'avais entrepris des travaux de jardinage et de terrassement. Et il y avait des grosses dalles de pierre dans ce jardin, plates, des grosses dalles plates. Donc je voulais enlever ça ne me plaisait pas. Et ça a été un peu un cauchemar parce que quand je soulevais ces pierres, à un moment donné, tu les retournes, elles tombent et tu découvres ce qu'il y a dessous. Alors des fois, des petits trucs qui grouillent, des machins, j'aimais pas trop. Et des fois, j'ai cette sensation-là quand je peins. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je vais trouver, tu vois, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce qui va être insupportable et qui, en même temps, va m'attirer aussi. Hein, mais voilà. Et c'est toujours comme ça, une surprise. Et puis, comme beaucoup, j'en discute avec beaucoup d'artistes, c'est le moment où on est surpris que les choses, souvent, sont pas mal, quoi. Si on fait trop ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'il y a ça aussi, hein, je raconte ça, mais j'ai des moments aussi où je me rassure en faisant des choses que j'ai déjà faites, où j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça, et puis ça fonctionne pas, parce que je me dis là, oui, c'est ce que tu avais fait la séance derrière, tu recommences, et puis ça marche pas, quoi, c'est pas bon. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que je suis incapable de refaire une chose. Ça participe aussi de cette hétérogénéité grammaticale dont on parlait. C'est-à-dire que même si je considère avoir une réussite sur une pièce, la séance suivante, j'essaie de la refaire, c'est impossible. Dès que je m'en approche, c'est la catastrophe. Donc je sais que l'issue à ce moment-là, ça sera l'inverse de ce que j'ai produit. Il n'y a que comme ça que ça va pouvoir sortir. Donc il faut absolument que j'abandonne cette obstination à vouloir refaire quelque chose que j'ai déjà fait et qui a réussi sur le premier coup. Et que l'aboutissement sera forcément une pièce qui sera complètement différente. Donc il faut que je m'enlève de la tête cette obsession et que je reparte sur autre chose. Et c'est là où j'arrive à produire.
J'aime bien ce que tu viens de dire, parce qu'en fait ça relance ce côté de reproductibilité. Et est-ce que, enfin, cette question que Walter Benjamin a largement soulevée, qui nourrit ton travail? Et je pense que non, c'est un travail qui est irreproductible. Tu peux pas, enfin, hormis d'essayer de refaire, enfin, ce que je vois, on est sur, quand même, sur de la tâche, sur du hasard, enfin, sur tout ce qui fait la peinture, et c'est quelque chose que non, enfin, tu pourrais jamais demander à quelqu'un de reproduire ce genre de travail, c'est pas possible, c'est complètement unique. Et à la fois, ça se rejoue sur cette question de... Et encore une fois, c'est cet entre-deux, en fait, qui est là.
Oui, tout à fait. C'est bien ça.
Ça veut dire aussi que tu peux pas être dans l'intention quand tu commences ta peinture.
Il y a forcément au départ des choses qui sont données. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que si je fais une peinture et que je pars en vacances un mois, quand je reviens, je reprendrai exactement là où j'en étais un mois avant. Il n'y aura pas... Alors, on a beau dire qu'on travaille dans la tête pendant un mois, mais moi, dans les faits, je reprends exactement comme un écolier à la ligne là où j'en étais avant. Et je repars, et ça recommence, et ça évolue, ça avance. Il y a des nouvelles questions qui se posent, il y a des nouvelles... découvertes qui se font, et puis j'ai l'impression d'être plus pertinent là par rapport à l'idée que je m'étais faite. Mais il y a toujours quand même quelque chose en amont qui te permet de faire. T'as des choix que tu fais quand même en amont qui orientent les choses. Hein. Très clairement, on n'est pas totalement dans le hasard. Hein. Il y a vraiment des choses, des choix qui font qu'à un moment donné, je vais forcément aller dans une direction.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est important? On aurait oublié de parler, et donc toi tu veux
non.
parler.
Ah non, je réponds à vos questions. S'il fallait que je résume un peu le travail que je fais, je t'avais raconté une fois, Claire, on en avait parlé ensemble, il y a une image et un dessin de Sempé qui m'obsède. Cette image, t'en avais parlé. Et je trouve que c'est quelque chose qui résume bien. Peut-être pas mon travail, mais disons l'état d'esprit dans lequel je suis. Et c'est la fin, là, c'est ça. Donc je peux peut-être...
On a le temps. Donne la fin quand on veut.
Voilà. Que tu le décris, je trouve que c'est une belle fin. Donc, Non, c'est un dessin de Sempé qui m'obsède parce que... Je vais vous raconter le dessin. La scène se passe dans un magnifique jardin, bucolique, très beau. Et dans ce jardin, au centre, il y a un peintre qui est devant son chevalet, qui a une toile blanche qui est posée sur le chevalet, prête à être travaillée. Il a un pinceau dans la main droite et une palette garnie dans la main gauche. Et il est très inspiré et prêt au travail. Et un peu en arrière de lui, il y a deux petites dames assises sur des pliants. Et l'une des deux, qui doit être sa femme, dit à l'autre « C'est ce moment où tout est encore possible que je préfère. » Et à chaque fois que je viens à l'atelier, je me dis ça. Cette surface blanche, que chaque fois je reprends, etc. Ce qui fait que je fais 12 étapes, 13 étapes, c'est que je me dis toujours « Tout est encore possible. » C'est ça le merveilleux de l'acte de peindre. C'est qu'effectivement, j'ai toujours cet espoir, peut-être niais, d'arriver chaque fois à quelque chose de sublime. Ouais. Et ça me motive et ça me donne envie de venir à l'atelier, de faire une 12e, une 13e étape à chaque fois.